français, vous?
Ben là, je parle peut-être pas le français de France, mais oui, je parle français.
Moi, j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français.
Ah bon?
Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien.
Ah, c'est certain.
Un Québécois d'expression canadienne, française, française. On est des Canadiens,
oui, je vois,
américains, francophones d'Amérique du Nord.
Oui,
des Franco-Québécois.
On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens.
Les deux.
C'est quoi?
L'a pas compris.
Les sceptiques seront confondus.
Bonjour et bienvenue dans le direct de Radio Bartas spécial 48 images secondes. Ce soir, on vous parle cinéma québécois et ce soir, on rentre dans le vif du sujet puisque c'est aujourd'hui qu'ouvre officiellement le festival. Donc ce soir également, j'ai avec moi deux invités québécois. Il était temps parce que depuis le début de l'émission, on parle que entre français de cinéma québécois. Donc il y a Daniel Racine avec nous.
Bonsoir.
Donc critique et spécialiste du sujet, on avait déjà pu t'avoir à l'antenne. Mm-hmm. Et Gabriel Arcan, qui avec plus de 40 ans de carrière et à peine moins de films, reste un acteur emblématique de cinéma. Bonsoir Gabriel.
Oui, bonsoir.
Alors avant de discuter un peu ensemble, je vais vous faire un petit rappel des événements en cours. Donc à 17h, normalement vous étiez en train de voir Crazy de Jean-Marc Vallée, qui a dû se poursuivre, ou qui va se poursuivre d'ailleurs, par un petit quiz préparé par les collégiens de Florac, qui ont analysé le film ces dernières semaines. Là, en ce moment, depuis 18h, vous êtes au vernissage de l'expo d'Émilie Plateau, de l'autre côté à Montréal. Et à 19h30, vous serez à l'ouverture officielle de ce festival. Donc ça se passe à la Jeunette Verte, avec tout le monde. Hein. Nous, on y sera tous.
On y sera tous.
Voilà.
Nous y serons tous.
Et si par malheur, vous ne pouvez pas être avec nous à la Jeunette, vous pouvez assister quand même à cette ouverture sur le site teledry.org. Donc c'est la web TV des Cévennes qui va diffuser le streaming de cette ouverture. Et enfin, à 21h, on aura la projection de Mommy de Xavier Dolan. Voilà pour le programme de la soirée. Je pense que ça va être pas mal. Donc, Gabriel Arcan, bienvenue. Alors, en fait, ma première question, je la réserve pour Daniel quand même.
Ah.
Donc, je vous l'ai dit, hein, vous êtes considéré comme un acteur rare, précieux du cinéma québécois.
Ouais,
et un acteur emblématique de cinéma. Daniel, tu peux nous dire pourquoi? Parce que je ne vais pas vous poser la question, Gabriel, ce sera peut-être un
peu... Non, je préfère, je refuse de répondre à ces questions-là.
Ben, Gabriel, tous les personnages qu'il a interprétés sont marquants. Ils ne tournent pas beaucoup, ils tournent à une bonne fréquence, mais il y a eu énormément de personnages marquants. Le démantèlement, c'est son plus récent. Son personnage est magistral. Je lui aurais remis le jutra du meilleur acteur, mais il y avait un homme plus fort que lui, celui qui a interprété Louis Cyr, Antoine Bertrand. Je me souviens pas quand est-ce a lieu la projection, ça serait bien de le mentionner.
Donc, ce sera demain. Donc,
C'est demain la projection.
Demain à 19h. Non, pardon. Attends, pour moi, j'ai fait un petit mix. Demain à 19h, c'est le déclin de l'Empire américain dans lequel vous jouez également.
Mmh.
Et le démantèlement sera dimanche à 14h.
Et justement, dans le déclin, qui c'est qui vole les scènes à chaque fois qu'il est à l'écran?
Uh-huh.
Gabriel Arcan, qui a un rôle de soutien très important dans le film et qui amène vraiment... on pourrait dire un ressac à
contrepoids,
ouais, merci, meilleur terme, qui fait que le film fonctionne à certains moments où est-ce que ça aurait pu déraper. Moi, je constate sa présence très, très importante dans ce classique du cinéma québécois.
D'accord. Et donc, on lisait, hein, vous êtes un peu rare à l'écran. Enfin, si c'est vrai au Québec, vous imaginez en France à quel point vous êtes...
à quel point je suis rare. Ouais, si je suis rare au Québec, mon Dieu.
Voilà. on va présenter votre dernier film. Donc, Le Démantèlement, c'est l'histoire de Gabi, un éleveur de moutons, ça va parler hein, ici dans le coin, qui choisit de démanteler sa ferme pour aider financièrement sa fille. Mmh. Alors, j'ai appris un peu que vous aviez hésité à accepter de faire ce film. Du coup, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi vous avez accepté, ça va nous donner envie d'aller le voir.
Oui, bien sûr. Bon, d'abord, le film raconte l'histoire d'un, effectivement, d'un producteur d'agneaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une région du Québec au nord-nord-ouest du Québec, une région surtout rurale, avec des éleveurs pas seulement de moutons, mais aussi de moutons. Et ils ont un problème qui est un problème de l'Occident, qui n'est pas seulement un problème du Québec, des petits agriculteurs, des petits éleveurs qui sont obligés soit de vendre leur ferme parce qu'ils se font manger par les plus gros, ils ne peuvent pas produire suffisamment, ils n'y arrivent pas à vivre et ils n'ont pas de subside du gouvernement. Alors, il y en a plein qui vendent à des gros producteurs de uniculture. Il y en a qui s'enlèvent la vie. Chaque année, régulièrement, il y a des cultivateurs qui s'enlèvent la vie au Québec et ici aussi, chez vous aussi. Quand on a présenté le film à la Semaine de la critique au Festival de Cannes, il y a 2 ans maintenant, on a fait des projections du film dans l'arrière-pays cannois. Et il y avait des producteurs d'agneaux qui étaient dans la salle, qui ont vu le film, qui disaient « mais c'est notre histoire, c'est la même chose qui se passe ici ». Donc, c'est pas un problème spécifiquement québécois. Donc, le film raconte l'histoire d'un producteur d'agneaux qui est aux prises avec ce problème-là, en plus de se faire solliciter par une de ses filles pour lui prêter de l'argent qu'il n'a pas, évidemment. Et il décide de démanteler sa terre pour venir en aide à sa fille aînée qui vit dans le luxe et qui a besoin d'argent. Ce pourquoi j'ai hésité à l'origine, c'est qu'en la lecture du scénario, un tiers du scénario de Sébastien Pilote, qui est le réalisateur et le scénariste de son film, il y avait une telle quantité d'informations documentaires sur la vie quotidienne d'un producteur d'agneaux que je me disais, mais pourquoi il prend pas un vrai producteur d'agneaux, puis les dialogues, il les fera dire à son personnage, puis... Puis en lisant, il y a des scènes quand même dramatiques un peu compliquées à jouer qui demandent un peu un métier d'interprète parce qu'il y a des monologues, il parle de sa vie sur la terre et tout, de pourquoi sa femme est partie, parce que sa femme l'a quitté pour ces raisons-là aussi, elle ne voulait plus vivre sur la terre, elle trouvait ça trop difficile. Mais il y avait une grande quantité d'informations documentaires. Donc, au début, j'étais un petit peu rébarbatif en me disant, mais il serait mieux de faire comme Pierre Perrault a fait dans ses documentaires sur Pour la suite du monde, où on voit des gens qui vont à la pêche au marsouin. Je pense que le film est programmé, d'ailleurs, dans la semaine, pour la suite du monde.
En fin de semaine.
Bon, voilà, qui raconte, qui est un des premiers grands documentaires au Québec sur l'histoire d'une île qui s'appelle l'île aux coudres, où les habitants vivent de la pêche et ils décident de refaire une pêche qu'ils ne font plus, mais qu'ils faisaient autrefois, qui est la pêche au marsouin. Est-ce que c'est quoi pour les Français un marsouin?
Un beluga.
Ah, est-ce que c'est un beluga?
Oui. C'est une espèce de dauphin blanc.
Exact. Oui, voilà. Et autrefois, au début du 20e siècle, il y avait la pêche au beluga. Et ça a cessé dans les années 30-40. Mm-hmm. Et le documentaire convie les habitants de l'île aux coudres à retourner refaire une pêche au beluga. Et le documentaire raconte comment ils décident de reprendre la pêche au beluga. Donc, je me disais, en lisant le scénario du démantèlement, mais c'est un peu comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas des vrais producteurs, puis qu'on les voit vivre, puis ils diraient les dialogues et tout. Et finalement, le réalisateur, Sébastien Pilote, m'a un peu convaincu en me disant, non, ça prend un vrai acteur à cause des scènes dramatiques, c'est un peu compliqué, puis je ne pense pas qu'un cultivateur soit capable de dire ces textes-là convenablement. Donc, ça a été un peu ça, ma réticence au début, à cause de la structure même du scénario. Mais finalement, je pense que le personnage est à peu près crédible.
Ah, mon Dieu, oui.
il a l'air d'un producteur d'agneaux. Il parle pas beaucoup. Puis c'est un type un peu taciturne que beaucoup de gens qui vivent sur la terre. C'est pas des gens qui sont très volubiles. Ils sont un peu taiseux, comme on dit ici.
Tout à fait. Et
donc, il est un peu comme ça.
Et vous avez eu justement des retours, justement, vous l'avez dit, dans l'arrière-pays cannois, de producteurs qui ont pu se reconnaître.
Oui, absolument, parce qu'ils ont les mêmes problèmes. C'est comme je te disais, c'est les petits producteurs qui fournissent plus, ils ne peuvent pas arriver à survivre. Parce que l'industrie est différente, parce que tout le système économique de l'agriculture est différent. Les gros producteurs de fruits, de légumes, de viande, c'est des monocultures. Alors, ils ont besoin d'avoir 3000 moutons. S'ils en ont juste 200, ça ne fait pas. Donc, celui qui en a 200, il est obligé de vendre de celui qui va en produire 3000 ou alors il ne trouve pas puis il s'enlève la vie parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de subside, il ne peut pas survivre.
A priori, s'ils sont reconnus dans le personnage, c'est effectivement que la prestation est réussie. Mais est-ce que quand même il y avait un challenge pour vous d'interpréter une gestuelle particulière, enfin un métier, enfin votre métier c'est de comédien, donc c'est d'interpréter, mais est-ce qu'il y a un défi supplémentaire par rapport à ce rôle?
Ben, il faut que tu apprennes. Une fois qu'il m'a convaincu, Sébastien Pilote m'a eu convaincu de le faire le rôle, j'ai dit, mais très bien, mais il faut que j'apprenne à vivre comme ces gens-là. Il faut que j'apprenne ce métier-là, comment ils font avec les moutons tous les jours. Alors, il m'a introduit, il m'a présenté à deux vrais producteurs d'agneaux du Saguenay, qui sont devenus mes amis, Alain Maltais et Langis Craft, et eux qui sont des vrais producteurs d'agneaux. Et alors, je suis allé vivre avec eux. J'ai passé 10 jours chez eux, puis le matin, on se levait, puis on allait travailler avec les moutons, puis dans la bergerie, puis quoi faire. Puis j'ai appris les rudiments de leur vie quotidienne. Et ce qu'on voit dans le film, c'est à peu près ça. D'ailleurs, on a fait plus que ce qu'on voit dans le film au montage. Stéphane Lafleur, le monteur, qui est aussi réalisateur, qui est aussi compositeur de musique, qui est aussi ici avec nous.
Oui,
pour Tudor Nicole.
Pour un film qui s'appelle Tudor Nicole. Et le monteur du film de Sébastien.
D'accord,
Pilote.
OK.
Oui, non, c'est une mafia. Hein, c'est une
oui, la mafia québécoise.
Enfin, c'est un genre de mafia. Donc, Stéphane a dû enlever des choses que je faisais, que je manipulais, des actions que fait un producteur d'agneau, et parce qu'il y avait trop de temps, parce que c'était trop explicite, puis c'était pas nécessaire pour la durée dramatique du film. Mais donc, j'ai appris ça avec ces deux producteurs-là. J'ai appris avec eux les rudiments de leur métier, de leur vie quotidienne.
Mais vous ne vous êtes pas reconverti pour autant, vous restez acteur, pas producteur pour la suite de votre carrière.
Est-ce que j'y ai pensé? Ben... Alors, c'est une vie extrêmement difficile. Si vous pensez qu'on mène des vies difficiles, ces gens-là n'ont pas de vacances, n'ont pas de congés. Ils travaillent 365 jours par année, de 4 heures le matin à 9 heures le soir. C'est hallucinant comment c'est difficile comme vie. C'est des choix de vie. C'est comme une sorte de vocation. Hein. C'est pas un... Ils arrivent pas au bureau à 9 heures le matin pour partir à 17 heures. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Puis les moutons qui sont malades à 3 heures du matin, ou la brebis qui accouche à 2 heures du matin, il faut qu'ils s'en occupent, il faut qu'ils soient là avec. C'est une espèce de vocation, ce genre de vie-là. C'est extrêmement difficile. Donc, c'est d'autant plus désespérant pour eux d'être pris dans des situations où ils ont plus d'issue pour leur bétail et tout. C'est très, c'est une vie extrêmement dure, hein. On ne se rend pas compte. On fait des vies dans le luxe puis dans l'aisance, croyez-moi. C'est des vies très, très difficiles, non, très dures.
Et puis effectivement, c'est des contextes qu'on croise régulièrement ici, enfin voilà, qui sont très proches
oui,
des problématiques locales.
D'une part, puis que paradoxalement, qu'on ne voit pas souvent au cinéma.
Oui.
Qui n'est rarement traité au cinéma parce que ça n'intéresse pas beaucoup les gens de voir les gens qui sont dans les difficultés. Tu comprends? On aime mieux voir Laetitia Casta. Remarque, moi, je peux comprendre aussi.
Mais de là, la force aussi du scénario de Sébastien Pilote, parce que Sébastien Pilote a écrit un scénario remarquable. Il avait remporté un prix justement à la semaine de la critique pour l'écriture. Et Sébastien Pilote, c'est vraiment un jeune réalisateur qui prend du galon rapidement. Plus le si vendeur.
Jeune. Plus si jeune.
Bah, plus si jeune. Jeune dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de films.
Ah, oui,
c'est son deuxième long métrage. Mais il y a mon âge.
C'est l'envers.
C'est pour ça que le mot jeune est venu à la tête.
Il est l'envers de Xavier Dolan.
C'est ça.
Xavier Dolan a fait 5 films à 25 ans. Et Sébastien, il a 40 ans. C'est son deuxième long métrage.
Il prend son temps, mais c'est des personnages forts. Le vendeur, c'était la même chose avec Gilbert Scott. Pardon, j'ai pas dormi depuis 36 heures.
Moi non plus.
Belle performance, hein. Non,
ouais. On a fait que, c'est ça. Il réussit à développer des histoires avec des personnages puissant et avec il étend tout ça autour d'eux, pardon, et ça se développe très très bien à l'écran, là. Franchement, il fait un travail remarquable.
Mais c'est intéressant de comparer les deux réalisateurs parce qu'ils font des films qui sont au style de leur comportement puis de leur vie. Ça veut dire, les films de Xavier Dolan, c'est des films très, très excessifs. Ça va très, très vite. Ça crie. Tout le monde est énervé. Ça va mal. Les films de Sébastien Pilote, c'est des films contemplatifs qui se déroulent très, très lentement sur un tempo rural, extrêmement lent, tu comprends, comme les films d'Angelo Poulos ou enfin...
John Ford,
des choses comme ça. Et ils sont tous les deux très représentatifs de leur cinéma, qui sont aux antipodes l'un de l'autre.
Et il y a un autre vis-à-vis à faire. Enfin, moi, j'ai remarqué, c'est-à-dire que le démantèlement est axé aussi autour de la relation père-fille.
Oui.
Que Mommy qu'on va montrer, c'est la relation mère-fils.
C'est vrai.
Oui, tout à fait.
Du coup, je ne sais pas s'il y a des liens à faire entre les deux sur ces positionnements-là, mais...
Et pour éviter de même.
Pardon, c'est des comparatifs, tu comprends? C'est des rapports comparatifs, ce que je te dis. C'est le cinéma de Xavier Dolan puis le cinéma de Sébastien Pilote sont extrêmement représentatifs de ce qu'ils sont, eux, dans leur tempérament et dans leur nature. Tu sais, c'est ça que je te dis. Dolan a fait 5 films en 5 ans. C'est une femme puis un fils qui se crie à tue-tête après film après film. Sébastien Pilote, c'est 2 films. C'est 2 pères avec 2 filles. dans le vendeur aussi. C'est très, très lent, c'est très contemplatif. Puis ils ont une relation très proche, très tendre, mais un peu compliquée. Tout en tendresse, puis en demi-teinte, puis en non-dit, tu sais. Et les deux films sont très, très, très représentatifs de leurs auteurs, tu sais.
Quelque chose d'assez doux. Donc, j'ai rappelé, hein, le démantèlement, ça sera à 14h dimanche, à la Jeunette Verte. Et puis, j'en profite aussi pour placer le film dont vous parliez. Donc,
oui, pour la suite du monde.
Pour la suite du monde, c'est samedi à 15h.
Oui,
j'écris sur le...
De Pierre Perrault et Michel Brault, c'est un film fondateur du cinéma québécois contemporain.
Documentaire.
Oui, donc très, très important. Le premier film québécois à être en compétition au Festival de Cannes en 62.
Et aussi, je vais placer le... Vous parliez du parc du Saguenay, et il y a une expo toujours en cours au Parc national des Cévennes, avec des photos qui ont été réalisées par les agents du parc des Cévennes dans le parc du Saguenay. Donc, voilà, si vous voulez voir l'œil des Cévenoles sur le Saguenay, il faut aller visiter le parc.
Ah bon.
Voilà. Et après, je voulais aussi. Donc, il y a un autre film où vous êtes à l'affiche qui sera projeté. Donc, c'est.
C'est le début de ma carrière.
Voilà.
Relancer ma carrière. Être venu à Florac, ça va relancer ma carrière.
Donc, demain à 19h, on aura le déclin de l'Empire américain.
Oui.
On en parlait tout à l'heure.
Oui.
Voilà. Quel regard vous pouvez avoir sur ce film 30 ans après?
Ah mon Dieu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Je vais le revoir, donc ça fait très longtemps. C'est quand ça, on change de planète complètement. C'est un film d'intellectuels sur un groupe d'intellectuels. Peut-être que vous l'avez vu, ça raconte l'histoire d'un repas entre amis qui sont tous des professeurs d'université et qui parlent de leur relation conjugale, les uns avec les autres, les unes avec les autres, dans une atmosphère bon enfant, d'amitié professionnelle, de gens qui ont autour de 40, 45 ans, 50 ans, et sur leur badinage amoureux les uns et les autres. Il faudrait que je le revoie. Je ne sais pas si le film a bien ou mal vieilli. Qu'est-ce que ça représente? Au moment où il est sorti, en 86-87, ça a créé une espèce d'onde de choc parce que on avait rarement entendu parler autant dans une si brève période de temps par des personnes de sexualité, d'érotisme, de rapports amoureux. Donc, c'est sur un ton assez badin, assez plutôt amusant. Est-ce que ça a bien vieilli? Je ne le sais pas. Il faudrait que je revoie le film 30 ans plus tard. Est-ce que c'est encore signifiant? Est-ce que ça a perdu sa signification? Je ne le sais pas. Peut-être que notre ami ici aurait un point de vue.
C'est un film qui a vieilli un petit peu, mais par son propos, moi je trouve que ça reste toujours pertinent.
Oui.
J'ai toujours trouvé le cinéma de Denis Arcand, par exemple, un peu paresseux au niveau de la forme, mais au niveau des dialogues, c'est toujours bien écrit, puis il y a toujours des personnages très riches, très intéressants, qui doivent être très intéressants à jouer, j'imagine, quand on a la chance de pouvoir jouer. Donc... Oui, c'est un film qui a un peu vieilli, mais qui mérite d'être vu. C'est vraiment un classique de notre cinéma et c'est probablement le film qui a marché le plus au niveau international aussi, côté cinéma québécois.
Moins que les Invasions barbares.
Moins que les Invasions barbares?
Je pense que oui.
Mais c'est dans la même...
C'est les Invasions barbares qui ont détrôné au box-office en
France. Déclin.
Le déclin.
Mais c'est presque les mêmes personnages. C'est la suite de la vie des mêmes personnages. Donc c'est comme le sequel, on dit, à Hollywood. Ouais. Mais sans Schwarzenegger, par exemple.
Et sans vous,
dans les
Invasions barbares.
Oui.
Et dans le déclin, vous amenez justement cette fracture un peu. Vous avez à nouveau un rôle un peu taiseux, mais une présence qu'on remarque énormément.
Mais c'est un personnage intéressant à jouer, comme tous les personnages qui sont à contrepoint. Un contrepoint dans une situation dramatique, c'est toujours payant, et pour l'acteur, et pour le spectacle. Parce qu'il te détonne pendant quelques moments de l'ambiance générale, du déroulement du drame.
Oui, mais un petit froid, là, dans le...
C'est sacré comme un... Et ça, pour un acteur, c'est toujours plaisant à jouer, parce que c'est très payant, toujours, parce qu'on le voit, il est remarquable, mais il est remarquable à cause de la place où il est placé dans le film, de sa construction, puis de son caractère, tu sais. Donc, le mérite en revient autant à la maquilleuse, au coiffeur, au réalisateur, à l'interprète. Tu comprends, c'est un ensemble de facteurs, ces rôles-là, tu sais, qui font qu'il est payant.
Et donc, ce sera à découvrir demain soir hein, pour une soirée dédiée à Denis Arcand avec, à la suite, le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares. Et je vais vous proposer de faire une petite pause musicale. C'est un morceau de Serge Nakoshi Pelletier, issu donc de
du démantèlement.
Du démantèlement. Oui, donc, oui. Il s'appelle Gabi et ses moutons. Voilà.
Oui, je connais ça.
Et donc on est de retour dans le direct de Radio Bartas, spécial 48 images secondes avec Daniel Racine.
Rebonjour.
Salut Daniel, qui nous accompagnera pendant tout le festival hein, pour animer un peu les films, nous parler du cinéma québécois. Et Gabriel Arcand, donc, qu'on pourra découvrir ce soir à la soirée d'ouverture.
Certainement.
Pour discuter un peu. Et à l'écran à partir de demain, donc demain pour les invasions barbares. Le déclin de l'Empire américain, je vais y arriver. Hein. Et à 19h.
Tout le monde est fatigué.
Voilà. Oui. Et dimanche à 14h pour le démantèlement, qui est votre dernier film. Et oui. Dont on écoutait un morceau de la bande originale, et à mon avis qui situe un peu le ton du film.
Oui.
Voilà,
oui, oui, tout à fait.
Assez
oui.
paisible. Oui, oui. Enfin, paisible, en apparence.
Pastoral.
Pastoral, rural. Daniel, en fait, je voulais revenir un peu sur ta présence ici. Donc, tu vas animer le dernier jour de stage.
Ouais.
Donc, il y a eu un petit décalage hein, par rapport au programme. Normalement, c'était demain. Mais demain, en fait, ça va être une journée de projection de films proposés par Sylvain Garel, qui co-anime ce stage. Et donc, tu reprends vendredi pour une journée dédiée au cinéma québécois au 21e siècle.
Exact. La modernité dans le cinéma québécois. Ce que je vais profiter de l'occasion, vu que c'est la dernière journée de stage, pour revenir sur tout ce qui a été dit un petit peu, je vais partir de la modernité dans le cinéma de Claude Jutras pour terminer avec les cinéastes là, actuels qu'on voit beaucoup dans notre cinéma. Je veux vraiment faire un survol, je veux pas passer trop de temps sur certains réalisateurs, je veux faire un éventail assez large, puis ceux qui seront présents pourront eux-mêmes creuser davantage, prendre des notes et fouiller peut-être des filmographies plus précises, mais c'est vraiment de montrer à quel point il y a un dynamisme dans notre cinéma, malgré notre part de marché au Québec qui est en chute libre malheureusement en salle, mais je pense que c'est tous les cinémas nationaux un peu partout sur la planète ont des chiffres alarmant et nous, on est passé de, je pense en 2005, il y avait 18% de part de marché pour le cinéma québécois à 5% maintenant. Donc, faut se battre au quotidien pour le cinéma québécois.
Ben, on espère y participer ici.
Oui.
Et justement, tu introduisais ça, tu vas partir de Jutras et je pense qui est a priori emblématique puisqu'il a un prix à son nom.
Exact.
Et qu'on pourra découvrir ici dans Mon oncle Antoine, qui sera donc dimanche à 19h, ce sera le dernier film du week-end d'ailleurs,
ouais.
Ça va un peu à l'envers, puisqu'on commence ce soir avec Mommy et on termine par Mon oncle Antoine de Jutras. Est-ce que tu veux en dire un mot?
Ben, Mon oncle Antoine, c'est toujours, à chaque 10 ans, au Festival de Toronto, au TIFF, ils font la liste des meilleurs films canadiens de l'histoire. Mm-hmm. Donc, à chaque 10 ans, ils réévaluent tous les films, puis ils rajoutent ceux qui ont été faits plus récemment. Et ça fait plus de 30 ans que Mon oncle Antoine est considéré comme le meilleur film canadien de tous les temps. Donc, c'est un classique qui mérite d'être vu. C'est pas, selon moi, le meilleur film de Jutras. À tout prendre, selon moi, son meilleur film, beaucoup plus audacieux. Je vois Gabriel qui
est pas d'accord.
Ah oui? OK, bon. Mais c'est un film, pour ceux qui aiment le folklore, l'idée qu'on peut se faire d'un certain Québec, c'est le film idéal. On est dans la région de Thetford Mines, région rurale, en plein hiver. Il y a des scènes vraiment merveilleuses, la direction photo est superbe. Donc, un classique à voir.
Oui, une chronique de village et une chronique de communauté, en fait, autour de ce petit village.
Oui, il y en a qui vont se reconnaître dans ce film-là, sûrement ici. Et parlant de momie, j'aimerais en dire quelques mots.
Mais bien sûr.
Momie, parce qu'en vrai dire, je vais essayer de convaincre Gabriel de rester debout ce soir pour aller le voir.
Vous ne l'avez pas encore vu?
Non.
Je ne l'ai pas encore vu et je doute que ce soit ce soir. Ça fait 22 heures qu'on est debout.
Oui, oui, oui.
Et je pense pas que, je pense que je vais le voir à Montréal quand je vais rentrer. J'en entends parler depuis tellement longtemps maintenant.
Mais c'est ça, on entend beaucoup parler, mais il faut vraiment le voir. Malgré que vous soyez tanné d'en entendre parler, c'est probablement...
Qu'est-ce que ça veut dire, tanné?
Tanné,
fatigué.
Fatigué, ouais, oui. Plus fatigué, comme nous le sommes tous. Moi, j'ai lancé ça l'autre fois parce que j'anime un ciné-club dans l'ouest de l'île où j'habite et on l'a présenté lundi et il a battu le record d'assistance pour notre ciné-club. Et je disais que c'est probablement en très peu de temps devenu le film québécois qui a fait le plus jaser dans l'histoire de notre cinéma. En très, très peu de temps, la couverture médiatique qu'il y a eu au niveau mondial est monstrueuse. Mm-hmm. Ça va avec le jeune homme aussi qui a un égo et qui a...
Monstrueux!
Oui, qui a une présence monstrueuse dans les médias.
Qui peut agacer, du coup?
Non, mais il a quand même détrôné Céline Dion dans le nombre de mentions dans les journaux et les médias québécois.
Non, je c'était crois pas.
Oui, non, oui, oui, non, non, non.
Pas c'est oui,
oui, oui, c'était là quand même.
Il y a des organismes qui calculent ça. Et l'année passée, Xavier Dolan c'était le plus cité. Donc ça montre l'ampleur de l'engouement qu'il y a eu autour de ça. Mais bref, c'est un film au niveau formel. Si on parle juste de la notion de cinéma, qui est un film important selon moi. Il y a une audace, il y a une énergie qu'on m'en voit rarement. C'est une charge émotive très très forte qu'il faut vivre au moins une fois.
C'est parce que t'as pas vu Céline depuis longtemps.
Mais d'ailleurs, il y a du Céline Dion dans Mommy, hein, si je ne me trompe
vous
pas.
Vous voulez que j'en chante un petit peu?
Mais vas-y.
On ne change avec... pas. Je m'arrête là.
Bon, suite du concert ce soir en ouverture, je pense. Hein,
on pourra bien. Avec un verre, ça va aider.
Et tiens, on va en profiter aussi pour faire un petit coup de pub. Donc, tu es animateur radio également pour une émission cinéma qui s'appelle Cinéfix.
Oui, à CIBL.
Voilà, et qu'on peut écouter sur le net. Et je pense que tu vas faire des petites parenthèses, des bulles que tu vas leur envoyer.
À vrai dire, on va en faire une seule. Ça d'accord. va être ce jeudi, 18h, heure de Montréal, mais minuit, ici, heure locale. On va être en direct à Cinéfix. Je vais essayer d'amener Gabriel à mon micro. À ce moment-là, ça pourrait être intéressant.
Il n'était pas au courant, a priori.
Non, il n'était pas au courant, mais on parlait ce jeudi. On verra. En tout cas, on verra demain. À quelle heure qu'on se couche. On est quel jour? Là?
On est mercredi.
Ah, on est déjà mercredi. C'est demain soir, demain. Mon Dieu. Il va falloir que je le mette à mon agenda.
Okay. Tu veux que je parle à la radio demain soir?
Oui, pourquoi pas.
À minuit.
On verra
bien. Mais bref, oui, une émission qui est dédiée... CIBL, c'est une radio citoyenne, donc on accorde beaucoup d'importance à la relève, aux jeunes cinéastes montants et au cinéma d'auteur. Alors, Sébastien Pilote rentre parfaitement là-dedans. Xavier Dolan, de moins en moins. Mais puis le cinéma québécois est notre premier cinéma, on le met de l'avant. Mais on a eu, j'ai eu la chance de faire des entrevues avec Bertrand Tavernier, avec Hirokazu Koreeda, Keshish aussi qui est venu à mon micro, et la belle Fanny Ardant. Ça a été un grand moment dans ma vie.
Ah, ça y est.
Que du bonheur quand même.
Que du bonheur.
Ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Nous, on va vite aller après pour cette ouverture. Donc, ça commence à 19h30, mais voilà, c'est pas si loin entre le studio et la jeunette. Quelques infos donc sur la suite des événements. Donc, ce soir, 19h30, soirée d'ouverture. 21h, momie. Demain, ça peut reprendre tôt, donc pour ceux qui ont assisté au stage, il y a des projections des films dont Sylvain aura parlé depuis le début de la semaine. À 14h, à l'amphithéâtre de Supagro, donc là on change un peu de lieu, c'est la projection du Summer de Julie Perron. C'est un documentaire sur l'artiste et semencier Patrice Fortier. Et à 17h, c'est Le chat dans le sac de Gilles Groux.
À ne pas manquer.
À ne pas manquer, c'est le coup de cœur de Sylvain Garel également, sur la Révolution tranquille, si on veut... comprendre un peu mieux ce pan de l'histoire.
Et avec la musique originale de John Coltrane.
Ah ouais?
Ouais.
Ben voilà. Ça, c'est... Et ça se passera par contre à la Jeunette Verte. Et puis donc, à partir de 19h, la soirée de Denis Arcand avec le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, respectivement, à 19h et 21h. Voilà. Donc, merci à vous deux.
Merci
et,
à vous.
Ben,
merci
à tout de suite. Et, oui. Et je passe l'antenne donc à Corinne qui ce soir, dans son direct, accueille l'association Marche Active et la toute jeune association Les Arts au Soleil. Bonne soirée.
Cette grosse vache.
Ben voyons, mademoiselle, on peut-tu rester près?
On a-tu gardé le cochon ensemble, toi puis moi?